C'est là, dans la semaine qui suivit les séances de Créteil, que Farid se retrouva. Il se posait une question. Mais de quoi vivent-ils ces aristos qui ne travaillent jamais? Pour obtenir une réponse, il pria Madame de Custière de lui accorder quelques moments de son temps. Et grande dame, elle lui fixa rendez-vous au palace proustien, 4 jours plus tard, à 17 heures. C'était sa manière de saluer sa flamme pour un écrivain éteint de longue date. Installés au bar Vendôme, ils sacrifièrent au 5 o'clock tea accompagné de pâtisseries et de muffins. Pendant que le pianiste jouait, elle demanda au trappiste s'il connaissait la raison du choix du lieu. Il l'ignorait et apprit donc que Proust en avait fait sa deuxième maison où il pouvait observer la haute société. Il y avait sa chambre et sa table. Farid et son hôtesse n'y étant que pour 1 heure ou 2. Elle lui expliqua que la noblesse possédait assez de terre pour en tirer de très substantiels revenus, que si ses membres ne fichaient rien, ce n'était pas le cas de leurs employés, paysans pour la plupart, et de leur domesticité fort nombreuse. Les Guermantes ne comptaient plus les serviteurs, maîtres d'hôtel, valets de chambre, valets de pied, femmes de chambre, huissiers, cochers, et sans parler de ceux chargés des chasses à cour. Et la proustologue de citer ce passage du côté de Guermantes. Il y a des Guermantes qui restent rue de la Chaise, disait le valet de chambre. J'avais un ami qui y avait travaillé. Il était second cocher chez eux. Et je connais quelqu'un, pas mon copain alors, mais son beau-frère, qui avait fait son temps au régiment avec un piqueur du baron de Guermantes. Et Marcel, lui, qui bosse pour lui? Pour sa famille, vous voulez dire, reprit la spécialiste. Il y a la fidèle Françoise, passée du service de sa tante à celui de ses parents, et donc du sien. Elle a une aide cuisinière à laquelle elle impose une existence intenable. C'était dans l'épisode de Combray, glissa l'adolescent. Exactement. Tandis qu'elle-même est terrorisée par le maître d'hôtel de la maisonnée. Il n'y a que les prolos à trimer. Pratiquement. Quand la recherche évoque le travail, cela concerne principalement celui des gens du peuple, ouvriers ou couturières, des domestiques, et c'est rarement gratifiant. Et j'ai en tête la comparaison de Françoise travaillant comme un cheval et l'histoire d'une mère travailleuse qui, comme par hasard, est rouée de coups par un fils ivrogne et tâche de cacher sa souffrance aux yeux des voisins. Il y a bien Swann et Saint-Loup qui prétendent travailler. Farid l'interrompit. Bref, ce sont tous de fieffés fainéants. Des oisifs, oui, mais pas des désœuvrés, corrigea son interlocutrice. Ne rien faire est épuisant. Vous voyez bien comme toutes ces réceptions, ces mondanités leur prennent du temps. Ils ont amélioré la combine du travailler plus pour gagner plus, travailler moins pour gagner plus. Non, non, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, ils font fructifier la formule ne pas travailler du tout et gagner beaucoup. Au fond, dans ce milieu, c'est l'argent qui travaille, la fortune amassée qui rend tout effort, toute activité rémunératrice inutile. Si l'on travaille, c'est à un bonheur, à un rapprochement. Et ils rirent ensemble de cette défense et illustration de la Dolce Vita. Farid interrogea ensuite sur les ressources du héros lui-même. Il ne gagne rien, il vit au crochet de ses parents et bénéficie d'un héritage bienvenu de sa tante Léonie qui lui permet d'acheter des chevaux, une auto, des toilettes pour Albertine. Il se ruine pour elle, prêt à lui offrir un yacht et une Rolls-Royce. Il ne travaille donc pas? Il devrait. Il pond des articles et, surtout, prévoit d'écrire une œuvre. Mais tous les prétextes lui sont bons pour procrastiner. Procra quoi? C'est un mot que vous découvrirez dans La prisonnière et dans La fugitive. Un presque apax qui n'apparaît que deux fois. Procrastination. Il désigne la tendance à ajourner, à temporiser, à tout remettre à plus tard, à repousser au lendemain. Dans ce domaine, c'est le roi. Mais il trouvera la lumière à la fin, ne soyez pas trop pressés. Procrastination était une révélation. Plus tard, justement, le mot devait faire un tabac. Contre toute attente, Proust inspirait les fantaisistes et un groupe de Dri créa l'UPLU, à prononcer au choix UPLU ou UPLU, l'Union pour la procrastination universelle. Les plus anciens proposèrent de confier la présidence d'honneur de l'UPLU à Michel Rocard, qui alors, Premier ministre, c'était au siècle de Proust, utilisa le mot lors de son discours de politique générale à propos des cages d'escalier qu'on doit repeindre et qui ne le sont jamais. L'idée fut retenue, mais jamais appliquée, car toujours remise à demain. En attendant, des sympathisants de l'UPLU étaient invités à envisager de s'inscrire à l'Union, en se gardant bien de vouloir militer. Oh, plus tard seulement. Rien ne presse, était le slogan majeur. Mais tout adhérent, vous paierez votre cotisation plus tard, avait la promesse de recevoir, plus tard également, un t-shirt créé par l'américain Sridless, Procrastinators, Leaders of Tomorrow. Quand les deux amis quittèrent le Ritz et foulèrent les pavés de la place Vendôme, il faisait nuit. Farid s'essaya avec succès, obèsement, et se dirigea vers la rue de Rivoli pour prendre son métro. Fabrice s'apprêtait à aller se cacher. Il lui fallait auparavant approuver le choix du lieu pour la dernière séance. La Proust-Forst s'était exprimée en faveur du palais omnisport de Paris-Bercy. En fait, aucun de ses membres n'était fanatique. Fabrice n'était pas plus emballé. Mais la montée en puissance de ce qu'il vivait, de ce qu'il provoquait, y conduisait naturellement. Le POPB exigeait une réponse. Fabrice donna son feu vert. Il prit alors un train pour les Pays-Bas et consacra ses jours de pause à la peinture hollandaise. Il séjourna près d'un mois à l'Hôtel des Indes, le long de l'Anjvorout, la plus prestigieuse des voies de La Haye. Il se rendit tous les jours au Mauritshuis dans l'espoir de pénétrer toutes les richesses de la vue de Delphes de Vermeer et ses mystères. Le reste du temps, il visita les autres musées, de la galerie Prince Guillaume V au Brédius, en passant par le Mesdag qui l'amenait jusqu'aux peintures du XIXe siècle. Dans cette ville chère à Proust, il réserva de précieuses heures aux antiquaires, aux canaux et aux parcs.